Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vivant. Et il vit en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Max de l'église des Minimes. Et on m'a chargé donc aujourd'hui d'être ici avec vous, pour partager la parole de Dieu. Je vois des visages que je connais bien et très bien. Et nous sommes tous frères et sœurs, quels que soient les endroits où nous sommes. Notre Seigneur est présent, il est puissant, il agit dans nos vies et dans nos cœurs. Que toute la gloire soit à lui et que sa grâce continue d'abonder sur nos vies. Amen. Amen. Il est vivant. Alléluia. Peut-être qu'on le dit sans nous rendre compte, il est vivant. Et je dis, il est vivant, mais il vit en moi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais vous inviter à lire quelques passages dans la parole de Dieu ce matin dans le livre de Luc, le chapitre 4. Partie de verset 16. Luc 4, verset 16. Alors, j'ai fait un effort sur mon accent pour que peut-être on puisse m'entendre ou entendre ce que je dis, parce qu'il fut un moment quand je parle, il faut que je répète 10 fois pour qu'on puisse saisir les mots. En plus, je parle très vite. Donc, il va falloir que je sois un peu plus calme. Chaque fois que je descendais de la chaire, alors on me faisait appel, on me dit, mais tu étais trop pressé, on n'entendait pas ce que tu disais complètement. Donc, je vais faire un effort. Amen. J'espère que le Seigneur a une parole pour chacun de nous ce matin. Depuis un moment, j'ai un fardeau dans le cœur et Dieu m'a permis de le partager à 2 reprises, à l'église de Minimes, puis à l'église de Jolimont. Et puis ce matin, pendant que peut-être je voulais réfléchir à trouver autre chose, le Seigneur dit, mais ce que j'ai mis en ton cœur, partage-le. Amen. Et donc, je voulais vous partager. Le verset 16 de Luc 4, il est écrit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais vous parler des choses quotidiennes, des choses normales, on va dire, peut-être qu'il puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Et j'aime bien m'inspirer de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis effectivement de ceux qui l'ont côtoyé, et puis finalement, en fait, de tous les hommes de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu. Et j'ai déjà lu ce passage à plusieurs reprises. Et je le connais, je sais que pendant que j'étais en train de le lire, il y a quelques frères et sœurs qui, à la limite, même le récitait parce que c'est assez courant. Et puis, de temps en temps, le Seigneur nous arrête pour nous demander de réfléchir un peu à ce que nous lisons et si nous le comprenons vraiment. Et Dieu, pendant ces derniers moments, a attiré mon regard sur quelque chose de particulier, sur sa vie et sur la vie de ses serviteurs. On parle de Jésus et c'est lui-même qui parle de lui. Une parole qui avait été dite depuis des siècles auparavant par le prophète Ésaïe, qui parlait de lui, Jésus. Et là, c'est arrivé le moment où cette parole, effectivement, doit s'accomplir. Parce qu'il termine en disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et mon désir, c'est qu'en sortant d'ici, cette parole soit accomplie dans la vie de chacun de nous. Gloire à Dieu. Jésus prend la parole. Il dit qu'il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Je regarde effectivement et le Seigneur m'expliquait qu'effectivement, il avait été élevé à Nazareth et il avait coutume de rentrer dans une synagogue. Tout le monde l'avait connu, Jésus. À part, en fait, l'épisode où, évidemment, il doit naître, que des anges apparaissent, que des mages peut-être se déplacent et que les choses sont annoncées et qu'on veuille le supprimer, lui et sa famille, qu'il disparaît ou qu'il fuit en Égypte. Nous n'avons, en fait, aucune information véritable sur la vie de Jésus-Christ. La Bible n'en parle pas. On a juste un épisode quand il avait 12 ans où il était allé à Jérusalem avec ses parents et qu'il était perdu. Et on nous a rapporté l'histoire parce qu'il était perdu et que sa mère ou ses parents s'inquiétaient. Ils le cherchaient, on l'a trouvé en train de poser des questions aux scribes, à tous ceux qui étaient là. Mais à part cela, il n'y a rien. Il y a eu comme un vide total, mais on parle de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu ne fait aucun cas de Jésus, de sa naissance, au moment où il ouvre en fait ses rouleaux, où il en parle. Et ces moments arrivent juste après quelque chose de particulier, d'extraordinaire, de spécial. Mais ce qu'on connaît de Jésus, eh bien c'est ce que tout le monde connaît de vous. C'est-à-dire que vous êtes nés, nous sommes nés dans un endroit, nous avons grandi, peut-être depuis un moment, vous habitez dans un lieu, et bien dans votre quartier, dans la zone, et les voisins vous connaissent, vos parents vous connaissent, vos enfants vous connaissent, vos pères ou vos mères, vos frères et sœurs vous connaissent. Ils connaissent vos attitudes, vos comportements, votre manière de réagir, de faire dans votre quotidien. Et nous sommes tous ainsi des hommes comme Jésus l'était. Alors quelquefois, quand je le dis, il y a des personnes qui tiquent, peut-être pensent que j'exagère, mais Jésus-Christ n'était en tout ce moment bien personne d'autre que vous et moi, à la différence qu'il était sans péché. Alléluia. Mais le fait qu'il soit sans péché n'avait bouleversé en rien du tout son quartier, sa ville, son pays, et l'humanité pendant 30 ans. Vous comprenez? Vous comprenez d'où je veux en venir? Alléluia! Et c'est important et c'est le message en fait de la fin des temps d'aujourd'hui que Dieu voudrait que tous nous nous rappelons et que nous puissions vivre. Que nous devions chercher, rechercher. Amen. Jésus était totalement ignoré. On ne savait rien de lui. Personne ne peut nous dire ce qu'il a vécu à 9 ans, ou à 13, ou même à 12, à part ce petit voyage à Jérusalem, ou à 29 ans, à 20 ans. Que faisait-il? Tout ce que les hommes savaient de lui, c'est qu'il était le fils du charpentier, et qu'il aidait son père au quotidien dans son travail. C'est tout. Et c'est ce qu'on dit. Il avait même coutume d'aller à la synagogue. Il était bien religieux comme vous et moi. Fidèle aux réunions. Peut-être pas pour tous, malheureusement. Mais il y était tout le temps. Et ça n'avait rien changé du tout dans la vie de cette synagogue. Ça n'avait bouleversé personne. On pouvait se dire que si à 12 ans, il posait des questions assez particulières qui pouvaient interroger les scribes, c'est qu'à 20 ans, eh bien, les questions devaient être encore plus pertinentes et que peut-être les gens de la synagogue auraient déjà commencé à parler de lui et que ça serait allé jusqu'à Jérusalem, qu'on dirait, mais il y a un jeune homme qui pose des questions, mais on ne sait pas d'où il sort. Mais on n'en parle pas du tout. Ça n'a marqué personne. Et personne n'était au courant de réellement qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et ce moment arrive juste après quelque chose de particulier, de spécial. La Bible dit, il s'est dirigé vers Jean, il a été baptisé, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Ça vous rappelle quelque chose? Effectivement, qu'il a été baptisé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est après que le Saint-Esprit soit descendu qu'on entend une voix dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Il y a des choses en fait qui m'interrogent depuis un moment et j'essaie de le partager. Je bénis le Seigneur parce que nous avons loué le Seigneur et on a dit qu'il faut que sa présence soit au milieu de nous. Et je crois que cette présence, elle est là. Amen. J'ai regardé la vie des apôtres. Et j'aime souvent me parler parce que je me reconnais tellement. Tellement. Ils étaient dans leur quotidien, dans les questionnements, à réfléchir de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils vont être, comment payer des factures, comment subvenir aux besoins de la famille, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ils étaient dans un état religieux. Quelques-uns étaient très religieux. Ils pensaient à bien à ce Messie dont la parole de Dieu annonce, qui depuis ne vient pas, et qu'ils sont sous domination étrangère, avec des difficultés, des persécutions, des situations assez complexes. Et certains étaient juste dans leur au quotidien, à chercher, à pêcher. Ils avaient même passé toute une nuit à pêcher. Ils n'avaient rien pris, et rien pris du tout. Ils descendaient tout désolés et leur vie devait basculer quand ils ont rencontré Jésus. Et Jésus leur a dit, ben, dès aujourd'hui, vous serez pêcheurs d'hommes. Et j'ai retenu ce passage, vous serez pêcheurs d'hommes. Et ils sont rassemblés donc autour de notre Seigneur Jésus. Ils ont vécu avec lui 3 années et demie, des choses glorieuses, extraordinaires. Je sais que je n'ai pas vécu le millième. Ils ont vu Jésus changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, calmer la tempête, purifier le lépreux, faire voir l'aveugle, entendre le sourd, chasser des démons, multiplier le pain, ressusciter des morts. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils n'en ont rien fait. Ils le suivaient tous, mais ils ne croyaient même pas ce qu'ils disaient. Aucun. Il n'y a pas un seul qui croyait à ce que Jésus disait. Ils voyaient tout ce qu'ils faisaient, mais aucun ne se posait des questions, ne se disait, il faut que je sois comme lui. Il faut que le feu, il faut que je guérisse des malades, il faut que des morts ressuscitent. Ils l'ont accompagné 3 années et demie. Et une fois le Seigneur leur a donné la grâce, ils sont partis, ils ont vu même des choses glorieuses, ils sont passés. Ils sont revenus et leur vie est redevenue comme avant. Ils ne suivaient qu'un maître de manière religieuse. Et puis, celui qui faisait tout pour eux est mort. Et souvent, on parle de Pierre et qu'il avait renié 3 fois. Je disais, mais à ce moment, les autres avaient complètement fui. Et il y a un passage qui disait, celui qui disait qu'il aimait beaucoup Jean, il le regardait de loin, de très loin. Et les autres, on n'en a pas entendu parler. Et souvent, les chrétiens très pieux et très spirituels disent, mais ce Pierre, il est hypocrite, c'est un traître. Comment peut-il, quelques instants après, prendre une épée et essayer de défendre Jésus, et puis la minute qui suit, il dit, non, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. Et je vois, souvent ça m'est arrivé, je dis, mais Pierre, c'est un faux type. Parce que je me crois tellement spirituel, plus que lui. Je n'aurais pas fait ça, moi. Et donc, ils sont retrouvés après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, tout tristes. Et j'ai regardé leur vie après la mort de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? c'est que je me suis dit, c'est comme si vous regardez un film, vous faites un stop, vous allez peut-être aux toilettes, vous mangez peut-être des chips, vous tournez, ou bien peut-être après vous êtes pris par les choses, vous oubliez le film, et puis une semaine après vous revenez, ah oui, c'est vrai que je regardais le film, et vous remettez en fait le stop, le film continue. C'est exactement ce qu'était la vie des disciples. Ils ont suivi Jésus, ils étaient dans leur quotidien, pêcheurs et d'autres fonctions. Et puis c'est comme s'ils ont rencontré Jésus et Jésus a mis juste un stop dans leur vie. Et ils ont vécu un truc 3 années et demie avec lui. Et puis il est mort. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés réparer les filets qui étaient en panne, qu'ils étaient en train de réparer quand Jésus les a appelés. Ils sont retournés pêcheurs. Ce que je dis, ce n'est pas vrai. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que, eh bien, le jour où Jésus a été ressuscité, lisez-moi Marc, le chapitre 16. Je l'ai relu, et je l'ai relu, et je ne croyais pas ce que je lisais. Chaque phrase se terminait par « et ils ne crurent point ». Et ils ne crurent point. Et ils ne crurent point. Les femmes viennent leur dire, on a vu, eh bien, des anges nous disent, il est ressuscité. La Bible dit, ils ne crurent point. Pierre couille, va voir, mais c'est vide. Il est perplexe, il ne croit pas que son Seigneur est ressuscité. Ils reviennent dire aux apôtres, mais notre Seigneur ressuscité sur le chemin se révèle. Ils ne crurent pas. Ils étaient complètement, eh bien, sans foi. Comme vous et moi. Ah oui, comme vous et moi. Ils ne croient rien. Tout ce que Jésus a dit ou a fait, eh bien, c'était comme si c'était une pause dans leur vie. Un rêve, ils ont dormi, ils sont réveillés et ils sont retournés à leur vie normale. Ils n'ont pas cru. Et même quand Jésus-Christ s'est révélé à 11, mais il y en a un qui n'était pas là, mais il ne croyait toujours pas. Et souvent, on parle de lui. Comme quelqu'un, ben, il n'a pas la foi. Quoi. Nous sommes toujours plus spirituels que Thomas. Et mes questionnements sont là encore plus loin, c'est que Jésus est ressuscité, ils l'ont vu, la Bible dit qu'il leur apparaît plusieurs fois. Mais leur vie n'a pas changé. Ils étaient retournés pêcheurs. Jésus est monté au ciel devant eux. Mais quand Jésus est monté au ciel, est-ce que vous avez entendu une seule parole, une seule écriture qui dit que les disciples se sont levés plein feu, ils sont rentrés dans la ville, ils ont commencé à parler de Jésus? Non. Il n'y avait rien de particulier dans leur vie. Rien de spécial ne s'est produit. Ils n'ont rien fait de tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et c'est notre vie, nous sommes à l'église, nous sommes sauvés, nous avons entendu parler de Jésus, mais il n'y a rien qui se passe, rien ne se réalise, nous n'avançons pas, nous sommes dans notre quotidien, dans notre routine, à réfléchir sur les petits mots que nous avons, les factures, les enfants, les parents, et comment faire pour et ceci et cela, il n'y a rien de spécial qui se produit, pourtant nous sommes enfants de Dieu, nous avons connu Jésus. Et la vie des disciples, eh bien, rien ne s'y passe. J'essaie de retourner un peu dans l'Ancien Testament, et puis j'ai découvert Élisée. Élisée, qui était un homme, franchement, appelé, il n'a pas hésité d'un seul instant. Il était d'une certaine famille, un peu âgée, il avait 12 paires de bœufs. C'est que dans cette période, avoir 12 paires de bœufs dans la famille, c'est qu'on est un peu aisé. Il était lui-même derrière l'une des paires, certainement des serviteurs de son père, travaillait avec les autres paires de bœufs, labourant, quand Élie lui a jeté le manteau. Et la Bible dit, ben, il a tout abandonné. Il est allé voir ses parents, il dit, allez, c'est fini, je suis Élisée, Dieu m'appelle. N'a pas cette période d'appel, on n'a plus entendu parler d'Élisée. Il a disparu de la circulation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. S'il y a des choses que je dis, parce que deux fois, je suis tout excité, et puis je peux dire des choses qui ne sont pas vraies. Dites, frère Max, là, on ne pense pas que ce soit juste ce que tu viens de dire. On commence à entendre parler d'Élisée à cette partie du film, comme je dis, où Élie doit partir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux la double portion de ton esprit, de l'esprit qui est sur toi. Et c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cette parole que vous venez d'attendre aujourd'hui est accomplie. Et le jour où vous voyez des apôtres qui sont craintifs et ils vont à la pêche, revenir, tout ça, la vie change ou bouleverse le monde jusqu'à ce que, eh bien, aujourd'hui nous soyons ici assis dans cette salle. C'est le moment où la Bible dit et le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible dit que, bien, du ciel, eh bien, il y avait comme des langues de feu qui étaient descendues dans leur vie. Ils étaient tous baptisés de feu, remplis de feu de Dieu. Et ils ont commencé à déranger ceux qui étaient craintifs, apeurés, qui, eh bien, ne voulaient sauver leur vie. Eh bien, maintenant, ils ne faisaient plus qu'à de leur vie. Ils proclamaient Jésus dans toute la ville. Et ce Pierre peureux, on l'avait attrapé, enchaîné, libéré, parce que les gens avaient vu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui venait de se passer, parce qu'il rentrait eh bien, au temple comme d'habitude, et ce monsieur bien, qui était présent là, boiteux, et qui a demandé quelque chose, et il s'est levé, il a commencé à marcher, et on a failli logiquement, en fait, le mettre en prison pour la vie, mais la Bible dit que les gens étaient un peu quand même devant un fait accompli, c'est qu'un boiteux qui était là toute sa vie, eh bien, il marche. Et pour cela, ils lui ont dit, ben, on te libère cette fois-ci, mais ne parle plus au nom de cet homme. Et le craintif leur dit devant eh bien, tout ce parterre de scribes, eh bien, d'anciens et tous ces religieux pour leur dire, jugez en vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu ou aux hommes? Ou d'obéir aux hommes ou à Dieu? Le feu de Dieu, eh bien, était dans sa vie. Et l'évangile avait bouleversé, eh bien, le monde entier. Lorsqu'on les a attrapés une fois, on leur a dit, voilà ceux qui ont bouleversé le monde. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, on a entendu parler de lui. Lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie et que le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a couvert, on a commencé à entendre parler d'Élisée. Et des choses extraordinaires qu'il faisait. Mais avant cela, on ne savait rien d'autre de lui. Lorsque le feu est descendu sur les disciples, eh bien, le monde a été bouleversé et l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. Et la Bible dit qu'au dernier temps, le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Des enfants, des jeunes gens, des personnes âgées, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il faut que le feu de Dieu descende dans la vie de chacun de nous, ici pleinement. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai partagé à deux reprises à l'église des Minimes, mais il faut que j'avance. Parce que souvent c'est intéressant, mais on peut te lapider à la fin si tu as trop duré. Et j'ai une deuxième partie de ce message. La première, c'est ça. C'est que nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est maintenant plus que jamais. Sinon, nous sommes des disciples qui ne dérangent personne dans ce monde. Ni le diable, ni les démons, ni les voisins, ni les autorités. Et effectivement, souvent, ça nous convient bien. On veut être des disciples calmes dans notre coin. On ne dérange personne, personne ne nous dérange. Et notre vie chrétienne, elle est douce et paisible. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Je bénis Dieu parce que nous sommes une église dite pentecôtiste. Amen. Et donc chaque fois, eh bien, nous invoquons le Saint-Esprit. Et je suis dans la joie parce que je suis dans une assemblée où eh bien, 95, sinon 99% des personnes que nous devons passer aux eaux du baptême, eh bien, ceux qui ne sont pas baptisés, nous avons un petit couloir avant qu'ils passent et nous prions ensemble avec les pasteurs. Et j'ai remarqué que dans notre salle, nous avons un de nos pasteurs de minime qui était là. Ça me fait plaisir ça. Il vous visite au même moment, il aurait dû peut-être lui parler du Seigneur, mais bon, il vient juste vous dire bonjour. Et donc les pasteurs prient avec ceux qui doivent être baptisés, et presque tous sont baptisés du Saint-Esprit avant de rentrer dans les eaux du baptême. Et je bénis le Seigneur, ceux qui rentrent à l'église de Minime, à qui on demande qu'ils ne soient pas baptisés, eh bien, vous avez peut-être 800 personnes, vous n'avez pas peut-être plus de 100. Même 50 qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Majoritairement, peut-être, c'est des personnes qui viennent d'arriver, qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur. Mais tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, eh bien, nous prions enfin qu'ils reçoivent le feu de Dieu, le Saint-Esprit. Ils sont tous baptisés. Et gloire à Dieu, nous sommes une église des pentecôtistes. Et tout à l'heure, pendant la louange, j'ai vu ces personnes au milieu de nous monter la voix, parler en langue. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu es présent, tu es vivant. Que ton nom soit loué et glorifié. Mais la Bible dit, et c'est ce que Jésus dit, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour quelque chose. Et cette partie-là, souvent, nous avons commencé à l'oublier, nous les pentecôtistes. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit et nous le recevons, mais nous n'en faisons rien. Et le Saint-Esprit s'attriste. Et le Saint-Esprit ne sert à rien. Et comme il ne sert à rien dans notre vie, il n'a pas besoin d'être présent. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour une chose, pour, eh bien, c'est une suite de choses. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit est sur moi pour quelque chose. Et je pleure souvent, depuis un moment, je pleure parce que toutes ces personnes que nous avons reçues dans nos assemblées et que même nous avons baptisées et qui ont reçu le Saint-Esprit, quelques temps après, je les cherche un peu dans l'assemblée, je ne les vois plus. Elles disparaissent parce qu'elles n'ont rien fait de ce qu'elles ont reçu. Et le diable leur a tendu des pièges. Et ils sont tous retournés. On a quelques-uns qui nous restent. Je m'occupais des cours de baptême jusqu'à il n'y a pas longtemps et je faisais une liste de toutes ces personnes qui sont passées par nos cours de baptême. Et la dernière fois, j'étais stupéfait. J'ai dit, mais si toutes ces personnes étaient dans l'église, on serait peut-être à 4 cultes maintenant. Nous sommes à 2 cultes et les 2 ne sont pas pleins. Et je dis, Seigneur, mais toutes ces autres personnes qui sont passées par ces cours de baptême, où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui, pour une raison professionnelle, ont dû déménager. Mais tous les autres sont toujours dans cette ville de Toulouse et tout autour. Et quand on prend des nouvelles, mais ils ne sont même plus en Christ. Ce sont des étrangers, ils ne savent pas, évidemment, ils ne veulent même pas nous rencontrer, rencontrer notre chemin. À quoi a-t-il servi qu'ils entendent l'évangile? À quoi a-t-il servi qu'on prie pour ces personnes? À quoi a-t-il servi d'être baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'effectivement, l'Église n'avance pas. Nous sommes morts à cause de ce que nous avons le Saint-Esprit. Mais cela ne produit en rien. Le feu de Dieu n'a aucune action dans notre vie. Nous sommes devenus trop sages. Nous nous aimons tellement que nous voulons être confortables avec notre Saint-Esprit en nous. Et dans notre coin. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne. La première des choses, c'est que nous avons une bonne nouvelle à annoncer à ce monde totalement troublé, et bien perdu, égaré, qui tâtonne et qui pleure. Il n'y a pas longtemps, et bien j'étais là et j'ai reçu un appel. Et c'était ce jeune homme-là que j'avais déjà visité, prié pour lui. Son cœur est fermé. Dieu l'a gardé déjà. La première fois que je l'avais rencontré, je me suis dit, mince, il y a des comme ça, des personnes dans notre ville. Une jeune sœur, après le culte, à 13h, eh bien, partait acheter quelque chose. Elle a rencontré ce jeune homme qui avait à peine 25 ans dans la rue, complètement paumé. Elle l'a tenu par la main. Elle lui a dit, viens à l'église. Et tout le monde était parti. J'étais juste là. Nous sommes les derniers souvent partis. Et le pasteur David Rampo, qui est Albi aujourd'hui, nous avons rencontré ce jeune homme totalement drogué, perdu, avec des yeux un peu hagards. Et dans l'entretien avec lui, il nous raconte que depuis une semaine, il dort dehors. Et j'étais un peu embêté. Je lui dis, mais pourquoi tu dors dehors? Tu n'as pas de maison? Il dit, si. Il a un appartement, un beau studio que peut-être vous voudrez bien si vous êtes seul. Que ses parents payent, qu'ils ne sont pas là. Je dis, mais allons à la maison. Il dit, je ne peux pas rentrer chez moi. Mais pourquoi? Il dit, mais on ne peut même pas ouvrir la porte. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il n'y a que des détritures. Je dis, bon, on va t'aider. On va nettoyer. Et puis, c'est comme s'il a eu comme un brin de lucidité, je veux dire. Il a souri un peu. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait sourire? Il dit, vous voulez nettoyer chez moi? Je dis, oui, je suis avec le frère, le pasteur David. On va prendre quelques sacs, on va t'accompagner chez toi, on va nettoyer. Il dit, prenez 40 sacs. Alors, le pasteur David m'a regardé, on a souri, et le paquet de sacs qui était là, je crois qu'ils n'en avaient plus un, c'est un rouleau de 20, mais c'est des sacs, de gros sacs en tout cas, de l'église, on n'a plus le rouleau qui est là. Il devait en rester, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, je ne sais plus. Et nous avons tenu, tu peux reconnaître le chemin de ta maison? Oui. Et on l'a accompagné jusqu'à chez lui. Il a réussi effectivement à ouvrir sa porte. Et donc j'ai voulu rentrer. Alors j'ai essayé de pousser, c'était coincé. C'est comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté qui me résistait. Et j'ai poussé, et j'ai poussé, mais j'ai poussé. J'ai dit au pasteur David, viens m'aider parce qu'il faut qu'on ouvre cette porte. On ne va pas la casser parce qu'elle est juste un peu entrouverte. À peine on voit. Et on a poussé jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Et j'ai essayé de mettre ma main. Il m'a dit, attention, ne mettez pas votre main. Vous risquez de vous faire piquer. Je l'ai écouté, on a pris des gants, on a doublé les gants. Et j'ai essayé de pousser pour qu'on ouvre la porte. Et ce que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est toute la décharge du quartier qui était là, mais c'était horrible. Il y avait des seringues partout, c'était piqué sur tout le corps. Il y avait peut-être des vomis, il n'y avait pas d'habit propre ni d'habit sale, tout était des asticots partout, des choses ignobles dans cette maison. Et l'homme de Dieu et moi, nous avons pris notre courage à deux mains. Nous avons nettoyé de 13h à 16h. Et à 16h, je me suis arrêté. Je dis, pasteur, je dis, oui. Je dis, il faut qu'on prenne une photo. Parce qu'à 16h, après 3 heures de nettoyage, la maison ressemblait toujours à un dépôt de détritus, de poubelles. Et j'ai pris une photo parce que ça me dépassait. Et on a fait jusqu'à je ne sais plus quelle heure. On n'a pas pu terminer. Mais on a libéré un canapé qui était juste là pour qu'il puisse se coucher. Passer au moins la nuit chez lui. Et j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, ils sont combien dans cette ville? Et combien de personnes, peut-être moins droguées, je veux dire, comme lui. Tous ces alcooliques, ces problèmes, et on commence à en recevoir dans notre assemblée. Nous sommes envahis. de toutes ces personnes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, qui sont possédées, qui sont dans le mysticisme, parce que, eh bien, on leur propose toujours des solutions sur Internet, dans les boîtes. Très souvent, chez moi à la maison, je reçois, quand j'ouvre la boîte aux lettres, eh bien, une publicité d'un chaman, un marabout, quelqu'un pour nous prédire l'avenir. Sans compter toutes les prostituées qui sont sur le boulevard, à un moment, nous allions les vendredis les rencontrer pour leur parler de Jésus. Elles ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et c'est toi et moi qui l'avons, cette bonne nouvelle. Votre voisin, il meurt demain, il bascule dans une éternité sans Dieu. Un enfer dont on ne peut pas revenir, on ne peut pas se réjouir de cela et être dans notre coin et être rempli du Saint-Esprit et qu'on n'est pas du tout ému de cela. Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? Un dimanche matin, je venais de l'église parce que j'habite un peu loin quand même de notre assemblée. Et puis, je vois la route nationale, je n'aime pas prendre l'autoroute parce que, pouf, on y va à fond, donc je vais toujours tôt, je prends la nationale pour être tranquille. Et je regarde depuis là-bas quelqu'un qui essaie de faire auto-stop et toutes les voitures passent rapidement à son niveau. Et je regarde et j'avance et il fait le stop, mais en dandinant. En dandinant, ça n'allait pas. Et je vois les voitures rapidement passer parce qu'on ne veut même pas, en fait, être à son niveau jusqu'à ce que j'arrive et je m'arrête. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais à Toulouse. Mais montez. Et pour ouvrir la portière, il cherche même la portière pour entrer. Et il entre, il a 22 ans. Un jeune homme de 22 ans. Et dès qu'il rentre, il s'assoit, je le regarde. Je dis, mais comment, quel état tu as? Et il commence à déverser sa vie et tout ce qu'il a vécu et tous ses chagrins et comment on l'a laissé tomber. Et je lui dis, mais tu sais quoi, Jésus t'aime. Eh bien, je ne t'amène pas à la maison, tu rentres directement à l'église avec moi. Il a hésité, il voulait pas dire, il dit non, je ne te donne pas le choix, on y va à l'église. Et je l'ai envoyé direct à l'église. Je l'ai mis au premier là. Juste là devant le pasteur. Le souci, c'est que vous rentrez dans l'église, vous avez une telle paix. Il a suivi 5 minutes, le reste du temps, il a dormi. Et ce n'était pas le premier que je rencontrais comme ça dans la rue, le dimanche matin, en rentrant à l'église, en allant à l'église. Il y en a un que j'ai pris. Parce qu'effectivement, aussi, lui aussi, on refusait. Il est rentré, il m'a regardé, il dit, mais vous vous êtes arrêté? Je dis, oui, pourquoi? Il dit, mais tous les autres me fuient. Je dis, oui, mais moi, je m'arrête. Parce que Jésus vous aime. Et c'est pourquoi il me met sur votre chemin. Je dis, mais pourquoi? Vous savez pourquoi les autres vous fuient? Il dit, non. Il dit, mais quand même, voir quelqu'un qui dandine dans la rue, ça fait peur aujourd'hui à notre société. Il dit, mais vous n'avez pas peur? Je dis, non. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Nous avons peur de quoi? De mourir. Mais pour Jésus, je me réjouis de le faire. Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? La Bible dit, le Saint-Esprit est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On m'a dit d'arrêter à 11h30. Il faut que je respecte ce qu'on m'a dit. Vous savez, il y a 2 semaines environ, notre pasteur a été invité, et je voulais vous dire cela avant qu'on termine, en Corée, dans une assemblée. Et bien, il a voulu que je vienne. Le Seigneur a voulu que je parte avec lui. Amen. Parce qu'il m'a demandé d'y aller, j'ai refusé. Pas parce que je ne voulais pas aller, mais je travaille. Et il me faut des vacances. Et j'en avais déjà pris 2 semaines auparavant, en juin. Et j'ai prévu en prendre 2 autres parce que, avec une équipe, nous allons aller en mission au Bangladesh. Et le pasteur doit aller un peu plus de 2 semaines en Corée. Donc il m'avait dit, je ne veux pas, pasteur, je ne peux pas. Après, je n'ai même pas de jour pour être en vacances avec mes enfants. Et donc il a essayé de partir avec quelques collègues, mais il avait toujours un problème de passeport. Et au final, à 1 semaine, il est revenu, il dit, Marc, il faut qu'on y aille. Je lui dis, mais pasteur, je ne peux pas faire 2 semaines avec vous. Il dit, mais tu peux en faire 1 semaine. J'ai dit, bon, ok. Je vais essayer de voir si je peux obtenir 1 semaine de mon boulot pour venir. Et j'ai obtenu 1 semaine. Amen. Oh, gloire à Dieu pour l'amen. Parce que c'est ça, en fait. Je partais, mais je ne savais pas pourquoi j'y allais. Et ce qui brûle en moi, au fond, de moi depuis et que j'essaie de partager, eh bien, Dieu me l'a montré en grandeur extraordinaire. Nous avons rencontré un homme de Dieu. Eh bien, ce qui sort de sa bouche, c'est qu'il dit, Christ est mort pour moi, eh bien, je suis mort pour Jésus. Dieu ne fait pas du tout cas de ma vie. Et ils ont filmé un peu, en fait, leur assemblée. Nous avons participé. Nous venons de sortir, ils venaient de sortir plutôt, de 40 nuits de prière. Et nous participions à la dernière nuit, quand nous sommes arrivés de 22h à 5h du matin. Et vous voyez dans cette assemblée de 22h à 5h du matin, des enfants de 4 ans, 5, 6 ans, 8 ans, qui crient, qui pleurent, qui demandent Jésus, et qui ne ferment pas les yeux, ils ne dorment pas. Et le frère, il commence son assemblée, eh bien, en 2004, ils sont 10. Lui, son épouse, ses 2 filles, 6 et 4 ans, et puis 6 autres personnes, 10 dans leur maison. Et il crie, Seigneur, l'Esprit du Seigneur baptise, remplit ma vie et tous ceux qui sont là. Et que Dieu de gloire, il faut que dans l'année, nous soyons 500. Il dit, wow, 10 personnes, 500. J'ai essayé de faire la multiplication. J'ai dit, si je ramenais ça à l'église de Minimes, j'étais là, j'ai dit, si je ramenais ça à l'église de Minimes, nous sommes environ 1000. Ah Seigneur, waouh, 10, 500, 1000, combien nous serons dans une année? Et je dis, bon, ben, allez, c'est une prière qu'il a faite à Dieu. Et 2 mois après, ils sont 30. 4 mois après, ils sont 100. À 8 mois, ils sont 500. À la fin de l'année, ils sont 750. À 2 ans, ils sont 2000. À 3 ans, ils sont 3500. Nous sommes allés trouver une assemblée de 10 000 personnes. Le Covid les a dérangés un moment. Ils font 4 cultes de 2500 places. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas des extraterrestres. Et nous posions des questions au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous notre secret. Il dit, mais il n'y a pas de problème. C'est le feu de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous crions à Dieu tous les jours. Toutes les nuits, ils sont en prière, du lundi au dimanche. Et puis il dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes baptisés, remplis. Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? Il dit, mais nous sortons. Vous pensez que c'est parce que nous sommes en Corée? On nous insulte, on nous crie dessus, on nous traite de tarés. Mais je les vois, ils ont filmé quelques épisodes. Eh bien, il neige, il fait moins 20 degrés. La neige tombe et vous voyez les frères de l'église, eh bien, qui, lorsque la neige tombe, les gens ont froid, ils courent. Et ils courent avec les gens pour leur donner des brochures. Le Jésus vous aime. Et on leur dit, allez dégager, on ne veut pas, mais vous ne voyez pas le temps. On a remarqué une autre fois, il tombait des trombes d'eau. Tout le monde avait des parapluies. parapluie. Et puis voilà, des imperméables. Tous les frères se sont mis en parapluie imperméable. Et les gens, ils courent pour aller à l'arrêt, ils les poursuivent, ils disent, Jésus vous aime, nous avons la bonne nouvelle. Après l'eau, vous recevrez l'Esprit de Dieu. Et ils ont commencé à crier à Dieu toutes les nuits, être remplis et à sortir. Et des prodiges, des miracles se perdent. Et des gens se convertissent. Et ils sont 10 000, mais le pasteur, il a soif. C'est comme s'il a encore 10 personnes à son assemblée. Il veut gagner non seulement la Corée du Sud, mais il a partagé la Corée du Nord qu'il ne connaît pas en 200 parties. Et il a distribué à des groupes, en fait, de l'église. Et pendant que nous sommes en veille de prière, vous n'avez même pas l'occasion de cligner l'œil comme ça pour dire vous avez sommeil. Vous n'avez pas le temps. Il y a tellement le feu de Dieu. La prière, les jeunes gens, je les vois, ils tombent, ils crient, ils se lèvent, ils sont mouillés de pleurs. Ils ont soif de Dieu et Dieu leur a mis une compassion pour les âmes. C'est Paul qui disait aux Thessaloniciens, notre évangile, ne vous ai pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ouais, souvent, on dit, ah ben c'est possible ailleurs. Nous en France, les gens sont trop incrédules. Ils sont trop ceci, ils sont trop cela. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais si l'Esprit de Dieu est sur nous pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Je voulais que nous puissions nous tenir debout pour prier en fonction de ce que tu as reçu. Que chacun de nous parle au Seigneur. Pour sa propre vie. Que le feu de Dieu t'anime, demande au Seigneur. Et tu es rempli du Saint-Esprit, dis au Seigneur, il y a trop longtemps que je suis resté tranquille chez moi. Donne-moi d'aller. Parce que la bonne nouvelle, c'est moi qui l'ai. Et c'est par moi que tu veux passer pour l'annoncer aux autres. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, oh, il pin kin de faux, chéri kin de flou. Hang de baba, kiri baba, chéri kin de flou, kin de baba. Alléluia, Jésus. Go, bébé, flou, kin de chéri kin de. Oh, Père, Seigneur Dieu. Oh, Père, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Père. Oh, utilise-moi, Seigneur Dieu. Oh Père, que je sois ton bras armé, que je sois ton bras armé, Seigneur Dieu, et que tu m'envoies, Père, dans ce monde, que tu m'envoies, Seigneur Dieu, Père, parler de toi avec l'autorité, avec l'onction, avec la puissance de Dieu, que tu m'envoies, Père. Oh, je veux y aller, Seigneur, je me tiens devant toi, je veux y aller, Seigneur Dieu. Oh Père, manifeste ta puissance. Seigneur, tu m'as envoyé ici dans cette assemblée, tu la connais, Père. Et Seigneur Dieu, elle est ici implantée depuis des années. Je crie à toi qu'il y ait quelque chose de glorieux qui se produise, quelque chose de particulier, de spécial, que ton feu descende, Seigneur Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Et que Seigneur Dieu, Seigneur, cette assemblée soit embrasée, Seigneur Dieu, par ta présence, Seigneur Dieu. Et que Père, comme une personne, elle se lève pour, Seigneur Dieu, au Père, témoigner dans cette ville pour ta gloire. Et tout autour, Seigneur Dieu, manifeste ta puissance. Viens, Seigneur, parler au cœur de chacun. Agis, Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Alléluia, Seigneur. Manifeste ta puissance et manifeste ta gloire. Oh, nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons sortir, Seigneur Dieu, de notre position et aller, laisser le Saint-Esprit, Seigneur, s'exprimer au travers de nous, Seigneur Dieu. Oh Père, afin que Père, ce pays soit bouleversé, Seigneur Dieu, parce que tu es vivant et tu vis en nous, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, et tu vis en chacun de nous. Alléluia, manifeste ta gloire. Et tends ta main, Père. Gloire à Dieu.